gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Coucou Flo.
Coucou Camille.
Coucou.
Flo, avec qui nous animerons cette émission, et bien sûr, coucou Léon, notre reporter déporté depuis la Beauce. Donc nous voici rassemblés autour de la table, chères auditrices et auditeurs, peuple migrateur, oiseau de nuit ou crâne déplumé, pour mettre en avant tous les liens qui nous relient aux oiseaux.
Aujourd'hui dans la Montjoie, plusieurs sont pour découvrir tous ces liens qui nous unissent, qui nous font vivre la symbiose totale avec les volatiles. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir sur Twitter, @zozio-deglingos.
Mais tout de suite, on commence avec une musique, Bird is the World, des Trashmen. Déjà, on reçoit nos premiers tweets. Tout de suite, un tweet de Tudus Merlus. Flo, est-ce que tu peux nous lire le tweet ?
Tchink, 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 sri, ti, ti, ja, titu, druit, tu.
Tudus Merlus, toujours aussi éloquent, et toi aussi, Flo, bravo pour cette interprétation. Merci beaucoup. Alors,
Merci, Tudus.
Merci Tudus, hein, d'abord et avant tout. Et on continue dans cette lignée avec The Bubble Story de Chloé Sanchez.
Hello, it's me, yes. Ok, so my name is Bulbul à queue rouge. But here people call me Red Vented Bulbul. That it means that I have a red dot here. Hein? That's why my name is Bulbul à queue rouge, the red ass Bulbul. So I'm here to talk about me. Yes, because like when I'm singing like that, yep. You can hear me many times in Auroville Forest, but nobody can see me. Can you tell me who already saw me? I'm not sure. Because I'm hiding myself mainly in the middle of the trees. And I like to eat fruit. And also I like flowers, insects, and sometimes I enjoy so much gecko. You know, gecko is like Christmas. So my name is Bulbula Curouge, that I told you. And to recognize me, well, first of course with the red dot. And also I have like a crête. I don't know how to say in English. Mohawk. You know, like mohawk hairstyle. Voilà. So that's how you can recognize me physically. But how to recognize my voice? For example, you're walking on the forest and you hear sound like this old mummy, an old grandmother were chatting a lot. Yeah, so it's me. And you know what? What can I do? Sometimes when there is a predator like snake, cat or mangost, all these kind of things, I'm like a policeman and I warn everybody, hey, someone is coming, and I do this. Yeah, like that. So, I'm very helpful for the forest. Voilà. Pop. I can tell you how I seduce a female. Yes, because I do a special nuptial parade, mariage parade, to catch female. So, first of all, I'm on the side of the female. And I start to sing, but you know, this very tiny, tiny, small call. And after, I'm pointing my beak to the sky, and I begin to shake my wings, but very, very quickly, you know. And after, I start to fly on the other side of the female. And I restart again the same thing. So each side I do. I'm flying on one side, I shake my wings, look at the sky, tiny call. And after I fly, I go to the other side of the female and I do the same. And at that time, if the female likes that, so what I hope, she begins to s'accroupir sur ses pattes. You know, she's squatting on her legs, on her claws. And do the same with her wings. Like shaking, you know, and she brings her head down, lift up her tail, and at the same time, you know, this little call. So that's how it works. Voilà. thank you. C'était le bout de boule à queue rouge. Voilà.
Thank you very much for this portrait, Chloé Sanchez. Very instructive rencontre. Now, on est coco. Les espèces auxiliaires, un extrait de Un monde vécu, un documentaire sonore diffusé sur le grain des choses, réalisé par Claire Gatineau et Yves Robic.
J'ai fait partie de ces jeunes agriculteurs qui, en 1960, dans les années 60, ont passé mon brevet professionnel agricole. J'ai eu mon brevet professionnel agricole, et pour avoir mon brevet professionnel agricole, eh bien, j'avais appris la chimie, l'agriculture chimique. Mes collègues paysans disent « on ne fait pas de l'agriculture chimique, on fait de l'agriculture conventionnelle ». Moi, je dis de l'agriculture chimique aujourd'hui, parce que le mot conventionnel a déjà été détourné, puisque ça serait quelque chose qui est fait conventionnellement depuis des millénaires, ce qui n'est pas le cas. L'agriculture chimique n'a que 50 ans d'âge. Donc ça ne peut pas dire une agriculture conventionnelle. Déjà, on nous trompe sur les mots. Agriculture chimique. Et moi, j'ai appris cette agriculture à l'école. Et quand je me suis installé, je l'ai mis en application, parce que je ne savais faire que ça. J'ai eu un accident chimique en 1984. J'ai été empoisonné chimiquement par un insecticide. Je me suis retrouvé à l'hôpital, 3 jours d'hôpital, avec une urticaire géante, intérieure et extérieure. C'est-à-dire que ça gonflait de partout. J'ai eu la vie sauve parce que je ne pouvais plus respirer. Parce que je suis parti à l'hôpital avec le bidon qui m'avait empoisonné. Ils ont pu faire le traitement anti-poison sans avoir les résultats de prise de sang. Ils ont tout de suite attaqué le bon anti-poison. Voilà, j'ai eu la vie sauve. Il n'empêche que depuis cette date-là, je suis handicapé. Puisque depuis cette date-là, je suis impuissant. Et quand tu vis ça au jour le jour, dans ta vie intime, c'est pas toujours évident. C'est vrai que j'ai pris à l'époque plus de 50 kilos parce que dans ma tête, ça fonctionnait pas toujours bien, hein, faut reconnaître. Mais à partir de ce moment-là, je me suis mis à réfléchir autrement. J'ai eu une chance inouïe en déménageant le grenier de mon grand-père qui était décédé. Je suis tombé sur un livre sur les oiseaux auxiliaires. Et là, j'ai appris que les oiseaux, ils pouvaient avoir des oiseaux auxiliaires. Et j'ai découvert, par exemple, que la mésange bleue, qui est un oiseau extraordinaire, extraordinaire, elle fait 12 500 voyages par jour. Il suffit d'avoir 3 couples de mésanges bleues à l'hectare et t'as plus besoin de traiter contre le charançon de la tige ou la méligette ou l'altise du colza. Le basculement de 1984 a fait que, pour moi, ça a été un changement radical. Bien que j'ai mis du temps, bien que j'avais des résistances en moi, je suis passé au sans-labour. Passer au sans-labour, pour moi, ça a été très dur, puisqu'entre je ne suis passé qu'en 1995. C'est-à-dire que j'ai mis plus de 10 ans entre le moment où j'avais décidé de changer et le moment où j'ai changé réellement. Hein? Parce que pour moi, le labour, c'était quelque chose de culturel. Quand j'étais jeune, paysan, en formation, eh bien, j'avais participé à des concours de labour. Alors arrêter de labourer, pour moi, c'était très difficile. Alors c'est vrai, la banque, elle ne m'a pas fait de cadeau. Parce que je me suis dit tout de suite, arrête de t'empoisonner. Parce que les premières victimes, je me suis aperçu, les premières victimes sont les paysans de la chimie. Et bien sûr, je me suis dit, est-ce que je vais continuer de m'empoisonner et empoisonner ceux qui ont consommé mes productions? Pour moi, c'était un dilemme. Mais comme j'avais construit, pendant que j'étais agriculteur chimique, une porcherie de type industriel, je ne pouvais pas la déconstruire. Et alors le Crédit Agricole, il m'a empêché d'aller encore plus loin, c'est-à-dire puisqu'il fallait que je continue de rembourser mes prêts de porcherie industrielle, il m'a empêché de passer en agriculture biologique. Hein, et j'ai jamais pu y passer. Mais j'ai fait un certain nombre de choix. C'est-à-dire que je me suis mis à travailler avec les insectes, les oiseaux. Alors, ce qui m'a permis d'éradiquer plus d'insecticides sur l'exploitation. Je m'étais fait empoisonner par un insecticide. Plus d'insecticides sur l'exploitation. Je suis arrivé à réduire des 2/3 les fongicides. Je suis arrivé à diminuer de 80% les herbicides. Et je suis passé, en 84, j'avais épandu 700 kg d'engrais chimiques à l'hectare. L'année de ma retraite, il n'y a pas bien longtemps, je n'en ai épandu que 60 kg à l'hectare, en gardant les mêmes rendements que mes voisins. Alors, quels sont les freins au changement ? C'est intéressant, nos freins au changement. Pourquoi l'agriculture chimique a si bien réussi et si vite? Et pourquoi revenir à une agriculture paysanne, ce qui ne veut pas dire revenir à 50 ans en arrière, hein, revenir à une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse des sols, respectueuse des plantes et des animaux, c'est si compliqué. En 84, j'ai basculé du mot « exploitant agricole » au mot « paysan ». Je suis devenu un paysan. Un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays. Voilà, donc, qui a les pieds dans la glaise, qui connaît son sol, qui connaît ses insectes, qui connaît ses oiseaux, qui sait que tel oiseau va pouvoir servir à telle chose, que tel insecte va pouvoir servir à être là pour... Et tu vas leur favoriser la vie. Hein, tu es juste là, le maître de cérémonie, hein, qui va favoriser tes collègues de boulot, qui sont tous ces insectes et ces oiseaux, et qui vont être au boulot.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Zozio avec une réaction sur Twitter, toujours @zozio-deglingos, une réaction de Mo, la perruche à collier. Camille, tu peux l'interpréter, s'il te plaît ?
Oui, alors... Doula prêtresse du dieu phénix, j'accompagne vos expulsions d'œufs de la phase d'accouplement à la phase d'éclosion et post-natale. Toute famille d'oiseaux acceptée, mesdames les merles, hiboux, goélands ou pouillots vélos, vous êtes bienvenues dans mon antre. Pour une vie au nid en toute sérénité, faites appel à mes services, secteur nord de Paris. Ben merci Mo, on va se passer le mot.
La vie est si chère et si importante en effet, Mo. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous nous écoutez depuis votre véhicule, s'il vous plaît, roulez lentement. Les collisions chagrines sont si vite arrivées.
Ceci est un message de la prévention routière.
Et tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-
Et je demande aux gens ce que ça leur évoque.
Les pigeons, ça fait partie des villes.
Je sais pas, les places avec des bancs, enfin quelque chose de square.
Un petit peu nuisible, voilà. Mais bon.
C'est que ça empêche de dormir le matin.
De la merde.
La sueur de pigeons. Hein. Parce qu'à Angoulême, on est envahi par les chiens.
La crasse, la saleté, j'aime pas les pigeons. J'aime bien les oiseaux. J'adore les oiseaux, les rouges-gorges, tout ça, mais pas les pigeons. Je trouve que ça détruit les murs.
Ouais, ça m'évoque des jolies couleurs.
Ça fait peur maintenant, ils sont très culottés. D'ailleurs, j'en ai pris une aile dans la figure il n'y a pas très longtemps.
Le gris, le orange, le vert.
C'est un animal assez fréquent.
J'ai toujours vécu avec des pigeons.
Ils sont là, comme moi, c'est tout.
Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'est des exilés, les pigeons.
C'est toujours pareil, quand ils sont tout seuls, c'est comme les individus. Quand ils sont tout seuls, c'est moins dérangeant.
Restez en tête, de Nicolas Mailleux.
Si je vous dis colombophilie?
Oui, c'est une phobie. Non, pas phobie, philie.
Ah!
C'est des gens qui s'occupent des oiseaux, ça, non?
Donc philo, c'est être ami des pigeons?
Si, les voyages, pigeons voyageurs, mais bon, c'est fini aujourd'hui.
Dès que vous me verrez le pigeon, moi je vois la tête enflée. Je regardez-le, vous penserez à moi.
Ouais, je vais le feu absolument, je
regarde. Film magnifique. C'est les pigeons sur le lien, puisqu'ils font connaissance sur un banc, en donnant à manger aux pigeons.
Si t'es pas timide, hein, tu ne fais pas ça dans le monde.
Et puis, celui qui veut toujours voir le dessus, là, c'est Jeannot. Là, l'autre, il a le plume dans le bec, là, c'est voleuse, la plus voleuse, il prend toutes les plumes.
Ça, c'est le portugais, ce pigeon-là. Je sais pas comment il l'appelle, mais moi, c'est le portugais.
Et qu'est-ce qu'on pense des prénoms qu'il donne?
Ouais, mais faut les m'en rappeler plus. Moi, je ne les connais plus, même.
C'est mon pauvre père, quand il est allé...
Pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fatigué, parce que tenir 19 pigeons par terre, toute la journée, c'est très dur. Moi, j'aurais pas tenu un mois de plus, hein, je te le dis. Qu'il m'a fallu 7 mois pour les dresser. Faut que tu prennes le dessus du cerveau des pigeons. C'est plus compliqué que ça. Pour te l'expliquer, ça peut pas te dire plus. Mais faut que tu le domines, le pigeon. Mais faut que tu le domines. Hein. T'arrives à les... Bon, tu les regardes bien, avec mes petites roulettes. Enfin, c'est des sons. Là, je me mettais... Les pigeons étaient comme là. Je me mettais un peu plus loin. Bon, comment... Depardieu était là, avec la grand-mère. On était... à peu près comme ça, et l'autre côté tu avais la même distance, et quand les pigeons approchaient trop, j'arrivais à les placer. Quand tu avais tout placé, bec et un peu plus à droite. Une fois, j'ai dit, il faudra pas le redire trois fois, parce que moi je m'en vais, hein. Il sait pas, moi le cerveau semble le travailler, hein. J'étais malade trois mois, hein. Et crevé, hein. Plus de jus, hein. Quand j'avais 10 ans à peu près, parce que j'ai commencé à 12 ans, à 10 ans, quand je sortais de l'école, il y avait notre menuisier, en bas du village où il y a la croix, là, t'as peut-être fait attention, il était juste en face, et ses pigeons volaient. Puis moi, ben, rentrer à la maison, je rentrais un peu plus tard, je les regardais voler. Puis un jour, il m'a vu, le menuisier, là, parce qu'autrefois, tu sais qu'on n'avait pas le droit d'aller galoper à droite à gauche, il fallait rentrer à la maison. Et ce monsieur, il m'a dit, tu regardes les pigeons? Ben, je dis, oui, ça t'intéresse? Ben oui. Et ben, il dit, faut que t'en aies. Ça m'intéressait, je ne comprenais pas quel pigeon. Et puis après, il m'a expliqué que le dimanche, il les faisait, parce que je ne le savais pas au début, qu'il les faisait envoyer à courir. Alors, je ne connaissais rien, moi. Il est venu à la maison. Il est venu à pied, bien sûr. On habitait juste en bas, la maison. Et on a parlé avec mon père, puis on a fait un colombier.
Et puis, il a mordu dedans, quoi. Mais il n'avait pas l'âge. Voilà, comment on a démarré, c'est par l'intermédiaire du gamin qui allait à l'école. Oui.
Qu'est-ce que ça représente, au final, pour toi, cette pratique?
C'est un souvenir. C'est un souvenir. J'avais quand même fait des prix. Hein? J'avais fait des prix, c'était un amusement, voilà. J'ai toujours joué amateur, moi. Pas professionnel, hein. Et professionnel, c'est autre chose. C'est pour aller en Belgique pour voir ça. Il y en a qui s'y mettent en France aussi, mais enfin. Professionnel, c'est un grand mot pour nous, hein, là.
Pourquoi toi, ça t'a jamais attiré, vu que tu sais accoupler correctement?
Oui, mais moi, j'ai toujours resté amateur. J'aurais pu faire pareil, faire des ventes, hein, parce que chez nous, il y en a qui vendent, hein, des pigeons. Oh, ils les vendent pas 1000 euros, hein. Mais je suis sûr qu'il y en a qui les vendent au moins 250 euros pièce. Hein. Je prends mes lunettes parce que moi, j'ai la vue qui baisse. Hein. Voilà, il y a du... Ça, c'est... tu sais ce que c'est, ça? C'est de la plume, c'est le duvet, là, tu sais, le... qui rend les pigeons malades, d'ailleurs, que je touche, là. C'est le gras des pigeons. Quand tu les attrapes, mon gilet, selon toi, on en est plein. T'as vu, j'ai attrapé le pigeon, t'as vu, regarde. C'est plein. Alors là, c'est... Toi, le pigeon, là, ça, il a 7 numéros, le pigeon, là. Et c'est un pigeon qui vient de Belgique. Enfin, là, 80% des pigeons qui viennent de Belgique, hein, que c'est mes reproducteurs. Et ceux-là, le prix qu'ils valent, je les mets pas en voyage. Et ça, c'est... Mais j'essaye de garder la souche par souche. Et après, j'essaye de croiser. Mais je fais 4-5 coupes pour croiser, puis si je vois que ça va, je continue. Si je vois pas que ça va pas, j'élimine par an les petits, tout. J'élimine tout.
Pour être colombophile, faut pas avoir peur de perdre des pigeons. Moi, avec les bêtes, j'ai toujours été assez dur. Mes soucis.
Ils prennent des traitements, des machins, après qu'il y en a qui ont le parti, ils faisaient autre, je sais pas quoi, les machins. Moi, l'autre jour, ils n'ont rien plus de tricot. Je l'ai vu, hein.
Ils ont un peu de...
La trichomoniose, c'est une maladie. Ils n'ont plus de tricot, j'ai regardé. Moi, ce que j'ai regardé, j'ai dit, le premier qui mollit, il est mort. J'ai pas traité, moi. Puis ils m'ont vu, ils sont remis, ça a duré 2 jours, et puis c'est fini. Que j'en connais, là, ils ont eu un petit peu de paratyphose après. Bon, un paratyphose, si t'as un pigeon qui a la blêle qui pend, c'est pas la peine, tu le tues, il volera jamais. Enfin, il volera pas bien. Mais tu peux le garder si tu le traites. Il volera pas mieux. Ça, c'est pas vrai, hein.
Du coup, il y en a qui traitent parce qu'ils ont plus de mal à tuer, tu crois, ou...
Ah oui, non, puis c'est... Bon, bah, il y a des vétérinaires, c'est normal. C'est normal. Mais moi, je dis que pour faire du sport, faut être à 100% de ses moyens. Si t'es pas à 100% de tes moyens... Mais mes pigeons, ils me connaissent, et je les connais tous, hein. Je les connais tous. Hein. Mais je les respecte, ils me respectent. Enfin, je respecte à condition qu'ils fassent des prix. Là, j'ai gagné le premier prix, premier et deuxième d'ailleurs, semi-national de Bruxelles. Parce que si je te fais voir toutes mes coupes, j'en ai peut-être 200, hein. J'en ai quoi faire. Alors là, mon pigeon, le 707 en 1987, il a fait bagarreur de la 12e région. T'as la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, la Charente-Maritime... Ouais, il fait partie de la famille. Il est mort de sa mort naturelle, à 21 ans passés, presque 22 ans. Ben oui, j'ai voulu le garder en photo, parce que des pigeons comme ça, t'en touches un dans ta vie. Hein. Il était supérieur. C'est un sportif supérieur. Je ne peux pas t'en dire plus que ça, parce qu'en ce moment, on recherche toujours le meilleur pigeon. Mais c'est dans la tête qu'on n'a pas trouvé encore. Mais personne n'a trouvé.
Pour moi, le pigeon, c'est la tête. C'est un pigeon qui a de la tête, une bonne orientation. Hein, quand ils sont lâchés, qu'il y en a 700, 800, ou peut-être 1000, ça va dans toutes les directions. C'est le pigeon qui a de la tête qui dit, bon, là, je suis ça pour pas que je continue, que je redresse, c'est pas ma direction pour aller chez moi. Mais ils n'ont pas tous ça. Il y a beaucoup de propagande avec ça. Hein.
Sur de propagande, tu dis?
Sur l'œil, sur le toucher, les ailes. Il y a beaucoup de choses que les gars regardent. Ça, pour savoir ça, après, je suis vieux, mais je sais pas tout.
Alors après, l'œil, alors là c'est compliqué, et c'est un pigeon qui a des signes dans l'œil, mais ça bon, tout le monde ne connaît pas, qui a des signes de reproducteur. Plus il est pigmenté, théoriquement encore, il est meilleur reproducteur. Après, bon bien sûr, ça c'est les morilles, il faut qu'elles soient très blanches, elles sont très blanches. C'est signe qu'il est en santé. Et là après on dit la tache là, de l'aile, ici, faut qu'elle soit la plus courte possible. Et après, je vais dire ce mâle-là, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, l'œil, la fourche est comme ça, l'aile, la ventilation est bonne, la femelle, bon, faut que je lui mette une femelle qui corresponde à son aile, le bras court, faut que j'essaie de faire pareil. Ben, c'est toute une étude. Ça paraît facile, mais c'est très compliqué.
Et là, on peut aller voir du coup les coureurs, quoi.
Ah, ben, bien sûr. Ils sont en repos complet. Ils sont pas nourris encore, toi, avec de l'élevage, ils sont encore en mu, à 20, 22 grammes, ils sont un peu moins. Et s'ils sont trop de poids, quand je vais les faire sortir, souvent, ils se blessent. Ça veut dire qu'ils veulent voler, ils sont tellement contents de sortir, ils se font les ailes, ils font une déchirure musculaire, enfin, pour ça, je veux pas qu'ils aient trop de poids. Et moi, quand je les lâche, au mois de février, je les accouple avant. Comme ça, ils sont occupés un peu avec leurs femelles, qui ne volent pas non plus. Elle n'a pas envie de voler trop, là ils font un tour ou deux, puis pof, ils se posent. Comme ça, ils ont le temps de se refaire la santé. Parce que ça fait comme toi, si tu fais pas, il y a 15 jours que tu es au lit, on te fait démarrer d'un seul coup, tu vas te faire un claquage.
Et pourquoi tu leur mets de la musique hein?
Ça, c'est... Alors là, comment je vais t'expliquer ça là? Les pigeons, je veux pas qu'ils stressent, je veux qu'ils se décompressent. Alors la musique, ça les détend. Tu crois pas, mais...
Toi, t'as fait des différences.
Ouais, j'ai remarqué que ces pigeons-là, là-bas, il n'y en a pas. Ils sont pas pareils. Et le soir, j'éteins. Ouais, du coup...
Je me redemandais un peu de tout ce que tu me racontais, j'ai l'impression que ça t'a fait quand même voyager.
Ah ben oui, j'ai surtout été en Belgique. Hein. Je suis allé en Hollande, je suis allé au Portugal, parce qu'on avait été faire les Olympiades là-bas. Mais avec Stéphane Dubois, d'ailleurs.
Bon, des années comme cette année où je suis arrivé ici dans la région au mois de mars, et donc les premières semaines sans avoir de pigeons à jouer, c'était difficile. Alors j'étais ici avec Maurice et puis on attendait les pigeons ici, c'était passionnant. La relation avec un oiseau, c'est extraordinaire. Un oiseau, il est là, il est libre, il est dans le ciel, et puis là il va te voir, il va te reconnaître et il va venir vers toi. C'est fabuleux. Et donc depuis des siècles, justement, l'homme sélectionne les pigeons voyageurs par rapport à leur capacité d'orientation et à la capacité à rentrer au colombier le plus rapidement possible. Et il faut continuellement rechercher d'autres pigeons, de nouvelles lignées pour recroiser, pour améliorer ces pigeons sur la catégorie choisie. Hein, parce qu'il y en a qui peuvent faire des concours de vitesse, il y en a qui peuvent jouer un peu plus loin, ils font jusqu'à 500 km, puis il y en a qui se consacrent que sur les grandes étapes de plus de 500 km. Ce ne sont pas les mêmes pigeons. Physiquement, ce n'est pas les mêmes, mais surtout psychiquement. L'idéal, c'est ça, d'avoir des vieux, une équipe de vieux qui tourne bien et de les jouer dans les concours qui leur sont réservés. Ça, c'est... Les jeunes, c'est difficile, c'est assez aléatoire, il faut surtout les garder en bonne santé. Ils sont plus fragiles et puis ils s'effraient vite. Ils s'effraient vite, un rapace, un coup de fusil, ils ont peur. Et après, dans les concours, ils ne connaissent pas le travail, donc ils peuvent suivre d'autres pigeons, ils peuvent faire de grands écarts. Après, il y a la technique aussi dans le vol. Les jeunes, ils veulent voler absolument le plus haut possible. Donc quand il y a du vent de bec, le vent contraire, il s'épuise très vite. Alors que les vieux, un pigeon vieillissant, il va apprendre à voler moins haut. Quand il y a du vent de bec, il va voler moins haut et puis il va se cacher dans les vallées, derrière les forêts. Il a l'intelligence du vol que le jeune n'a pas. Un pigeon voyageur en concours qui se perd, il déprime. Il y a cet aspect de dépression qui est très important chez les pigeons voyageurs. Il est fragile mentalement. Et s'il ne retrouve pas son colombier, s'il ne retrouve pas son casier, sa femelle, il déprime. Voilà. Il y en a qui dépriment facilement, il y en a qui dépriment jamais. Mais c'est un critère, il faut en tenir compte de ça, de cet aspect sentimental.
C'était Rester en tête de Nicolas Mailleux en décembre 2015 à Angoulême avec le Créadoc.
Où j'habitais avant, là, un monsieur déjà d'un certain âge qui a toujours eu les mêmes colombiers depuis 50 ans. Et dans les concours, il avait toujours un pigeon qui tapait devant, hein, comme un magicien. Alors comme il nous disait en rigolant, il disait, mais je leur parle dans le creux de l'oreille et ils m'écoutent.
Remerciements à Maurice Besse, Paul Besse et Stéphane Dubois. Merci aussi aux colocs, à Mathilde Simon, à Denis Bourgeois, Catherine Amiot, Mélanie Roy, Tony Ayer et Jean-Philippe Navarre.
Et c'est encore nous au plateau avec Flo
et Camille.
On a encore plein de réactions. Merci pour votre spontanéité. D'ailleurs, il y a Roger pour le collectif des pigeons unijambistes. Flo, à toi de porter la parole pour eux.
Nous, pigeons unijambistes, affreux, sales, méchants, borgnes, esquintés par la vie, tenons à vous rappeler que nos ancêtres ont sauvé la vie de vos grands-parents, risquant leurs plumes pour passer des messages à travers des frontières, pendant que vos aïeux s'adonnaient à cœur joie à des bains de sang. Aussi, devant l'engouement général pour les mangeoires et nichoirs à mésanges et autres petits osios mignons et colorés, nous réclamons aujourd'hui la revalorisation de nos familles des colombidés par l'inauguration d'un monument aux morts pour rendre hommage à nos aînés, ainsi que la mise en place d'un minimum mangeoire universel pour tous les pigeons de France. Stop au favoritisme et stop à la discrimination.
Flo, je vous sens très émue moi aussi, et c'est bien normal parce que ça nous parle à tous, ce minimum mangeoire universel. Merci Roger, et d'ailleurs on poursuit avec des revendications très fortes. Flo, vous nous avez préparé l'interview avec Léon. Ou avec...
Léon !
On prend tout de suite l'antenne avec...
Notre invité spécial.
Aujourd'hui, nous sommes en duplex avec Léon, notre épouvantail professionnel en direct de la Beauce.
Vous avez baissé les bras depuis maintenant 3 semaines et les cultures de blé sont ravagées par des nuées d'oiseaux. Léon, dites-nous, quelles sont vos revendications ?
Depuis quelques années, nous sommes remplacés par des robots, des canons à gaz effaroucheurs, et force est de constater que c'est une nuisance pour tout un chacun.
Vous êtes accusé d'avoir laissé des espèces ravageuses décimer les cultures. Qu'avez-vous à répondre ?
N'exagérons pas ! Non ! Nous sommes, en somme, les charnières d'une relation entre humains et volatiles pour la gestion des céréales. Bon, il est vrai que nous laissons des volatiles se nourrir dans les champs. C'est une négociation nécessaire. Rendez-vous compte que nous sommes en première ligne de cette négociation. Vous, humains, n'étiez pas prêts à ouvrir les yeux sur une relation nécessaire à tisser. En réalité, sans cela, les récoltes auraient été dévorées. Faire fuir les oiseaux à l'aide de canons est insensé. C'est la porte ouverte aux rongeurs et sauterelles. Bon, enfin, je ne néglige pas ces espèces. Je dis qu'un équilibre serait rompu si ces méthodes se généralisaient.
Les méthodes que vous dénoncez ont pourtant fait leurs preuves et sont manifestement plus efficaces et plus économes.
Non, attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, ces méthodes sont mortifères. Et vous aurez la démonstration de ses limites quand il sera trop tard. Encore une fois. Oh, mais c'est désarmant l'aplomb que vous avez à agir contre vos propres intérêts. Moi, je m'en fous, hein. Finalement, aujourd'hui, je suis fait de CD, de grindée, rayée, de paille, de vos habits troués. Et je pense que si je n'avais pas un passé commun avec vous, je ne me fatiguerais pas autant. Mais dans un temps plus ancien, j'avais forme humaine et je criais dans les champs. J'étais l'effaroucheur, un commis de ferme spécialité épouvantail. Mais si je suis là à parler aujourd'hui avec vous, c'est bien qu'il y a un problème quand je baisse les bras, n'est-ce pas ?
C'est inadmissible de laisser ces volatiles saccager les champs. Votre devoir est de les arrêter, de protéger nos cultures, vous êtes là pour ça. Vous devez de relever les bras, c'est votre devoir. Léon ? Vous m'entendez ? Quelles sont vos revendications ?
1 million en petites coupures. Avant de partir, je voudrais saluer des années de créativité, de recyclage d'idées, les cerfs-volants et autres danseurs des vents, l'inventivité des jardiniers du dimanche, l'abnégation des épouvantails solitaires qui fonctionnent trop bien. Les chemises à carreaux, les chapeaux, pots de fleurs, les têtes de citrouille, les cheveux de paille, les sons de crécelle et autres gling-gling des jardins. Vous êtes nos diplomates champêtres et nous pouvons en être fiers. Continuons à faire entendre l'importance de nos bras redressés.
Léon ? Léon ?
T'inquiète pas, il va chanter. Il va chanter, c'est pas inquiétant.
Es-tu loin, là, au fond, là ? En bas, là ?
Alors, moi, ce que j'ai... Il va falloir que tu trouves un truc. Il faudrait un système dans un genre de boule de pain que y donner, puis ça y gonfle le bec, puis ça l'empêche de chanter. Hein, tu te renseignes de ça. Pour le tuer, parce qu'il y a des méthodes efficaces. Hein. Moi, j'ai tordu le cou, ça, c'est facile. Mais un système pour... Ou alors pour y paralyser... Hein. C'est une station de bois. Ah, je compte sur toi pour faire... oui, parce que... Tu vois, il est enragé, bon, il est enragé. Et depuis que t'es venu, je crois pas que c'est encore pire. Le mieux c'est prendre un fusil et puis toi t'es terminé. Hein. Il y a des trucs aussi qui m'énervent, c'est les tourterelles. Toujours le même bruit, c'est un bruit, c'est pas un bruit. Ah, le coq, c'est beau. Hein. C'est joli, c'est. Mais là, les tourterelles, c'est mignon, c'est mignon comme tout, ouais, c'est vrai. Mais alors, un chant désagréable, je sais pas pourquoi, mais c'est leur chant, hein, mais. Je sais pas pourquoi, alors il y a un mauvais chef d'orchestre. Ouais. Si c'est pas beau. C'est pas. Il y a des oiseaux qui ont des chants aussi gracieux. C'est, là c'est pas élégant, hein. Moi je trouve c'est lourd, c'est. Oh oui, puis c'est toujours pareil. Je supporte pas. J'avais une carabine, il baigne. Hein. Alors, oui, mais à tour des j'en ai loupé une. Ça peut se louper dès la partie. Chez les voisins, mais je sais pas où. Oh, arrête. Alors c'est terminé, j'ai dit, si jamais on la retrouve, il y a du plomb dedans, parce que là sûrement, c'est pas un grain de sable qu'elle avait pris. Hein. Bon, je suis mal, dis donc. Oh, j'ai eu la trouille. Alors hop, terminé. Alors maintenant, j'ai un truc efficace. C'est tout simple. Tu sais, la petite volière, là, où tu as vu que sont les poules. Là. Alors j'ai une corde, là. Elle vient de manger du blé, tu parles enfin. Toc, ferme la porte, je les prends. Font du tort. Eh, quand tu fais du tort, toi, tu réagis. Bon, moi, je réagis pareil. D'ailleurs, répète le pont, hein, parce que... Alors, je fais ça discrètement, mais ça fait pas de bruit, moi. Toc, topette. Alors, la tourterelle, elle est par là. Si ça se trouve, elle est sur un fil.
Bon, on va la voir.
Ah, putain. Tiens, tu la vois, elle est là. Elle est là. Ah non, c'est un pigeon. Puis il y en a un autre, il y en a deux. Hey, va chercher une carabine.
Vous avez entendu T'inquiète pas, il va chanter. Un documentaire d'Aude Rabillon.
Merci Aude pour ce son. D'ailleurs, des réactions, hein, toujours et encore.
Ah oui,
vous êtes nombreux. Ouais. Un message Un message d'Edgar, je vous le lis.
Et toujours, réagissez, vous pouvez réagir à zozio-deglingos sur Twitter.
Alors, Edgar nous dit « À toutes les sociétés de chasse, rendez-vous lundi 20 juillet, 16h, parvis de la mairie, pour unir nos forces contre la diminution des jours de chasse ouverts. Charogneur, tueur, un seul combat, la liberté de manger un rôti le dimanche midi. » Ben voilà, c'est...
Merci Edgar.
Edgar le vautour, donc, qui nous a envoyé toutes ses pensées.
Super.
Voilà, Twitter, un endroit où on peut tous s'exprimer.
Donc la suite, Camille, on va écouter Maïté, c'est ça?
Et voilà, un rendez-vous habituel et bien connu avec Maïté pour la chronique.
La recette de l'émission.
Voilà, à tous refaire peut-être ce dimanche midi.
On parle de l'ortolan à la serviette. Pourquoi?
Ah, la serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolan. Et encore, il y en a qui sont bien plus forts que moi pour le déguster, ça j'en suis sûre. Parce que moi, j'en mange pas assez souvent quand même. Mais la serviette sert à cacher lorsqu'on a l'ortolan dans la bouche, parce qu'on a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche, et puis derrière la serviette, on peut se concentrer davantage, on peut se régaler, apprécier, déguster, vraiment voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent et on veut en profiter au maximum. Voilà. Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Je ne le souffle pas, parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre. Et on est là. Ah, ça y est. Alors, vous voyez, je commence déjà à avoir de la graisse plein la figure. C'est ça qui n'est pas joli. Alors, on est là. Là. Après, je mets mon doigt. C'est chaud. Il me tarde de le déguster. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer derrière. Oh, mon homère, si vous pouviez déguster ce que je mange, moi. Mmh. Ah, là, c'est bon. C'est encore trop chaud. Oh, c'est bon. Mon Dieu, que je voudrais qu'on soit à ma place. Je vous assure, si vous pouviez avoir ce que moi j'ai, Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Oh, que c'est bon. Je vous assure, c'est absolument, absolument ma tête. C'est pas comparable à rien, mais je vous assure, et bien, pour ce qui est minière, ce que vous minier, que par un mourir pour être mourir tout d'un coup, que ça serait contente.
Dernier tweet avant qu'on se quitte, Camille, un tweet du parc animalier du bois de Youpiland.
Alors, promotion sur les sacs gulaires, les becs spatules et pieds palmés, solde d'été sur toutes nos espèces en voie d'extinction. On veut tout voir disparaître. Coloris disponibles, pourpre, rouge sang, gris cendré. Ça part en graines de tournesol, là, Camille. On fait quoi? Il est temps de partir, non? Attends, non, mais là, il y a un goéland qui me regarde mal, Flo. J'ai peur pour mon sandwich. Il y a une colonie de pigeons qui tape à la vitre, là. Non, mais attends, faut quand même qu'on dise au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que cette émission Gymnastique Sonore est à réécouter sur le site de Canal B. Ouhou ! Sur le site de Canal B, une émission spéciale Zozio. Bon, Flo, on raccroche maintenant, faut y aller!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.